Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, la République tchèque fait une offre à la Pologne pour des avions militaires d'entraînement, un groupe opposé à la restitution des biens aux églises écrit au pape et la communauté juive dénonce une montée de l'antisémitisme sur Internet. La République tchèque va prendre part à un appel d'offres visant à fournir des avions d'entraînement et d'appui tactique à la Pologne, d'après les déclarations à l'agence de presse Tcheteka du Premier ministre tchèque Petr Nečas en visite lundi à Varsovie. Le gouvernement tchèque soutient une offre d'avions L-159 destinée à l'entraînement militaire et incluant un programme de familiarisation à ces appareils produits par l'entreprise tchèque Aero Vodochody. En Pologne, Petr Nečas a rencontré son homologue Donald Tusk, avec lequel il a évoqué des questions relatives à la coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie et de la défense. Les relations tchéco-polonaises ont connu une période sensible ces derniers mois, avec la mise en cause côté tchèque de la qualité des aliments produits en Pologne. Un groupe d'intellectuels opposés à la restitution des biens aux églises en République tchèque veut adresser une lettre au pape François par le biais du cardinal Duka. Il lui demande de rendre impossible l'acceptation des restitutions par l'Église tchèque en soulignant le fait que l'Église doit être pauvre et doit servir aux pauvres. Avant de l'envoyer, les auteurs de cette lettre, qui sont l'écrivain Lenka Prochaskova, le documentariste Václav Dojak et le musicien Karol Srp, veulent rassembler d'autres signatures afin qu'elle ait valeur de pétition. La loi sur la restitution des biens aux églises, établissant la restitution des biens saisis sous le régime communiste, a récemment suscité des controverses dans la société tchèque. Selon la loi, l'église pourrait obtenir de la part de l'État un actif s'élevant à 75 milliards de couronnes, environ 3 milliards d'euros. Mais cette loi aurait également pour but de stopper progressivement le financement des églises par l'État. Or, d'après les opposants, cette loi n'aurait ni de fondement éthique ou historique, ni de fondement juridique. La communauté juive de Prague a dénoncé une triple augmentation des discours de haine contre les juifs vivant en République tchèque. Les activités antisémites ont été particulièrement sensibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. Si la communauté juive a constaté en 2011 l'existence de 26 articles vidéo ou images haineux, leur nombre est monté à 82 en 2012. Les raisons de cet accroissement seraient liées à l'intensification des tensions dans le cadre du conflit israélo-palestinien, ainsi qu'à la politique gouvernementale pro-israélienne et même à la candidature présidentielle de Yann Fischer, ciblée pour son origine juive. Le président de la communauté juive, Yann Munk, a évoqué que les restitutions aux églises auraient dans une certaine mesure également joué un rôle dans le renforcement du mépris à l'égard de la communauté. Les antisémites considèrent les juifs comme responsables de la politique d'Israël et contestent leur droit à l'autodétermination. Le tribunal municipal de Prague entamera le procès de Roman Janoušek, individu présenté comme un lobbyiste ou même un parrain par les médias à la fin du mois de juillet. À l'été dernier, suite à un banal accident de la route, il avait tenté de prendre la fuite et percuter une femme, délibérément selon les témoins de la scène. Roman Janoušek, un proche de l'ancien maire de Prague, Pavel Bem, est donc poursuivi pour tentative de meurtre. Circonstance aggravante, il conduisait sous l'emprise de l'alcool. Malgré ses actes et ses 2 grammes par litre de sang, Roman Janoušek n'avait pas été menotté ni même emprisonné suite à l'accident, ce que les critiques avaient attribué à l'influence du milliardaire. Selon le juge Tomáš Kubovets, qui s'est exprimé dans le quotidien Lidové Noviny, les médias pourraient être autorisés à suivre les débats du tribunal. L'inculpé risque jusqu'à 18 années de prison. L'appel d'offres pour la rénovation du bâtiment historique du musée national, qui domine la place Venceslas, a été lancé ce lundi. Il avait été approuvé en avril par le gouvernement et plus précisément par les ministres de la Culture et des Finances. Les candidats aux travaux seront connus à la fin du mois d'août. Le coût des travaux de restauration est estimé à environ 4,5 milliards de couronnes, prévoyant un agrandissement de l'espace d'exposition, la jonction par un tunnel du bâtiment historique avec celui de l'ancien Parlement fédéral, qui fait désormais également partie du musée. Pour finir la météo, ce mercredi, pour la fête de toutes les Joféas et de toutes les Sophéas, donc de toutes les Sophies, le ciel sera partiellement dégagé à l'ouest et au sud du pays. Néanmoins, donc, nous attendons une montée des températures, car le reste du territoire sera ensoleillé. Les températures vont de 21 à 25 degrés Celsius pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui a eu le plaisir de vous présenter Denisa Tomanova. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Marion Dautry.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque préféré. Merci à Denisa Tomanova pour son bulletin d'information. Notre programme continue avec dans la deuxième partie de cette émission notre rubrique Panorama qui portera sur la question de la tutelle des personnes handicapées et leur situation en République tchèque. Nous reviendrons avant cela sur le retour du compositeur tchèque Josef Myslivečík, trop longtemps oublié, sur la scène du théâtre de Caen. Et tout de suite, nous faisons le point sur la visite du Premier ministre tchèque en Pologne, avec au programme de cette rencontre, entre autres, la question des produits alimentaires, pomme de discorde entre les deux pays. Vous écoutez Radio Prague et vous avez bien raison, bonne écoute. En visite à Varsovie lundi avec une importante suite de ministres, le chef du gouvernement tchèque Petr Nečas a tenu à réchauffer les relations quelque peu tendues ces derniers mois entre la République tchèque et la Pologne. Partenaire économique privilégié et membre du groupe de Visegrad, les liens entre les deux voisins souffrent pourtant des litiges à propos de la qualité des aliments ou de l'entreprise énergétique Unipetrol. Pierre Meignan.
Avec près de 40 millions d'habitants, la Pologne est un marché important, un poids lourd en Europe centrale et orientale et le troisième partenaire commercial de la République tchèque. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre tchèque Petr Nečas après sa rencontre lundi avec son homologue polonais Donald Tusk, soulignant au passage la grande qualité des relations tchéco-polonaises. Lors de la conférence de presse retransmise par la télévision polonaise, le Premier ministre polonais n'a pas manqué à l'exercice des flatteries diplomatiques en louant le rôle joué par Petr Nečas lors des négociations relatives au budget européen.
Współpraca pomiędzy Pragą a Warszawą przyniosła bardzo dobre efekty obu państwom.
La coopération entre Prague et Varsovie a eu des effets positifs pour les deux pays et pour l'ensemble des pays du groupe de Visegrad, par exemple dans le cadre des négociations sur le budget européen à Bruxelles. Et je peux affirmer que la politique du Premier ministre Petr Nečas et sa grande activité dans les négociations du budget communautaire ont permis à l'Europe d'obtenir un succès indiscutable.
Le vote d'un budget européen au rabais peut apparaître comme un succès pour ces deux hommes proches politiquement. Petr Nečas est le président du Parti civique démocrate, ODS, et Donald Tusk de la plateforme civique, PO, deux formations conservatrices et libérales. La bonne entente affichée entre les deux chefs de gouvernement cache cependant mal les tensions qui subsistent entre les deux pays, à commencer par la querelle sur la qualité des aliments. Depuis le scandale du sel polonais non comestible, les produits alimentaires polonais jouissent d'une très mauvaise presse. À Varsovie, on considère qu'il s'agit d'une campagne de diabolisation menée dans le but de favoriser le marché intérieur tchèque. Certains médias polonais ont contre-attaqué en mettant en cause des pièces de bœuf tchèques accusées d'être contaminées à la salmonelle. Ministre polonais de l'agriculture Stanislav Kalamba s'est agacé de la précipitation avec laquelle les supports d'information relaient certaines de ces rumeurs.
Comme on le voit, il n'existe pas un pays qui n'aurait pas de problème avec ses aliments. Quand des produits sont mis en cause, il faut tout d'abord mener une enquête, obtenir des résultats certifiés et seulement ensuite en informer les médias.
Stanislav Kalemba et Petr Bendel, ministre tchèque de l'agriculture, qui étaient également du voyage à l'instar de quelques autres ministres, ont prôné une harmonisation des normes et des mesures de contrôle sanitaire des aliments. Autre sujet de discorde, la propriété de la société tchèque distributrice de carburant Unipetrol. C'est une société polonaise, PNK Orlen, qui en est l'actionnaire majoritaire, ce qui ne plaît pas au gouvernement tchèque, lequel aimerait disposer de plus d'influence sur cette firme stratégique. Les Polonais y sont opposés. Pourtant, messieurs Nečas et Tusk ont vanté la qualité de leur coopération dans le domaine de l'énergie avec le soutien commun porté à différents projets de gazoduc. On écoute le chef du gouvernement tchèque.
Dans le domaine du gaz naturel, nous avons réussi à mettre en place des liaisons entre nos réseaux de gazoducs et nous voulons continuer à développer ce projet à l'avenir.
La volonté de faire table rase des malentendus et des menues tensions entre les diplomaties des deux pays s'est surtout exprimée à travers la proposition tchèque de participer à l'appel d'offres en vue de fournir des avions d'entraînement militaire à la Pologne. Prague soutient en effet une offre d'avions L-159 fabriquée par la société tchèque Aero Vodochody, une flotte aérienne qui pourrait bien symboliser le renouveau des relations tchéco-polonaises.
Le public français va avoir l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un compositeur tchèque longtemps tombé dans l'oubli, alors même qu'au XVIIIe siècle, Josef Myslivecek, surnommé Il Divino Bohemo, le divin tchèque, fut adulé dans toute l'Europe et admiré par Mozart lui-même. Le Théâtre de Caen propose ce mardi et ce mercredi la première française de l'Olympiade, un opéra créé à Prague au Théâtre National et qui partira ensuite pour Dijon et le Luxembourg. Patrick Foll est le directeur du Théâtre de Caen, il a rappelé au micro d'Anna Kubishta l'origine de cette collaboration franco-tchèque.
C'est vrai que ça, d'abord, c'est un projet qui, pour nous, s'inscrit dans la suite d'une première création qui avait été le Rinaldo de Handel, que l'on avait fait avec le Théâtre National de Prague et Collegium 1704, donc déjà le directeur musical Vaclav Lux. C'était un projet qu'on avait fait donc il y a maintenant 4 ans. À l'époque, le directeur d'ailleurs de l'opéra au Théâtre National, c'était Jiří Herman. Et c'est vrai que cette aventure du Rinaldo, Caen avait été en fait, le Théâtre de Caen avait été le partenaire du Théâtre National pour la coproduction et une tournée en Europe, on va dire côté France et Luxembourg, puisqu'à l'époque on avait emmené Rinaldo à l'Opéra de Rennes et puis au Théâtre de la Ville de Luxembourg.
Donc la coopération de l'Opéra de Caen et du Théâtre National de Prague remonte déjà à pas mal de temps.
Voilà, on est déjà dans quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Puis on était vraiment tombé complètement sous le charme de... Enfin, plus que le charme d'ailleurs, un peu en extase devant la qualité du travail qu'avait fait Vaclav Lux et son orchestre autour d'interprétation de Handel. Avec ce Rinaldo, et c'est vrai qu'on s'était dit « Ah, ça serait formidable qu'on arrive à faire un nouveau projet ». Et Jiří Herman m'avait parlé à ce moment-là de ce souhait qu'il avait de redonner vie à ce compositeur d'origine tchèque, Josef Myslivecek, qui d'ailleurs avait donc fait l'essentiel de sa carrière en Italie. Alors il se trouvait que moi, le hasard avait fait que j'avais fait une œuvre de Josef Myslivecek récemment au Théâtre de Caen à ce moment-là. J'avais fait la Passion que Josef Myslivecek a écrite, donc un de ses grands oratorios, et on l'avait donné ici au Théâtre de Caen, et j'avais trouvé que cette œuvre était absolument magnifique. C'est vrai que Myslivecek, pour moi, il est un peu emblématique de cette histoire de la musique au XVIIIe siècle en Europe, quoi. C'est ce côté complètement... européen, avec quelqu'un donc qui fait une carrière finalement en dehors de son pays natal et qui se retrouve finalement adopté par les grandes scènes des théâtres italiens à l'époque.
Comme vous parlez de Josef Myslivecek, j'ai cru comprendre donc si vous avez déjà fait une production voilà de Myslivecek auparavant, une autre création, évidemment en tant que voilà spécialiste, vous aviez connaissance de son existence, mais c'est vrai que c'est un auteur, enfin un compositeur assez oublié, peut-être un peu méconnu en France, et pourtant quand on regarde un peu son parcours, c'est ce que vous dites, hein, il était extrêmement connu à son époque, il était même admiré par Mozart lui-même.
Oui, c'est le paradoxe, enfin, c'est les effets de la mémoire. Donc à l'époque, c'est un compositeur qui est visiblement un des plus recherchés, puisque on va raisonner un peu à la cote de ses cachets, de ses salaires. Il était un des mieux payés à l'époque, beaucoup mieux payé d'ailleurs que Mozart, semble-t-il. Et puis effectivement, il tombe dans l'oubli. Alors bon, c'est vrai que sa musique est tombée dans l'oubli, mais la trace en tout cas de son personnage, oui, elle est restée vivante, entre autres d'ailleurs par le plus finalement par le biais de Mozart, qui est effectivement un peu la porte d'entrée, hein, pour la redécouverte de ce compositeur, parce que effectivement il y a eu cette admiration de Mozart pour les œuvres de Myslivecek, et visiblement une relation d'amitié qui a été qui a duré. Donc c'est par finalement la mémoire par les correspondances de Mozart aussi que ce personnage de Myslivecek a gardé, je dirais, de sa consistance.
Pour ce qui est de la mise en scène un petit peu de cet opéra de l'Olympiade, quels ont été un peu les choix qui ont été faits? Est-ce que pour les personnes qui pourraient être n'auraient pas l'occasion d'aller voir l'opéra, on pourrait un petit peu le décrire?
L'idée c'était vraiment on s'était dit il faut qu'on mette tous les atouts de notre côté et réunir en fait une équipe d'artistes qui puisse permettre une véritable renaissance la plus éclatante possible de ce compositeur. C'est comme ça que le nom de Ursel Herman s'est rapidement imposé. D'abord parce que Ursel Herrmann avait une expérience de production d'opéra déjà avec le Théâtre National de Prague et entre autres avec Jerzy Herrmann. Et en particulier, les Herrmann, enfin, puisque Ursel travaille en général avec son mari Karl Ernst, ils ont une connaissance mais absolument parfaite du répertoire mozartien puisqu'ils ont mis en scène quasi l'intégralité des opéras de Mozart. Et puis, on a voulu de la même manière réunir une équipe de chanteurs qui soient vraiment des chanteurs dans l'esprit du chanteur mozartien. Et ça, c'est vraiment encore une fois le cas, puisque que ce soit Raffaella Milanesi, que ce soit Sophie Hampson, on a vraiment voilà, des très belles mozartiennes, entre guillemets, sur scène.
L'Olympiade sera donnée les 14 et 15 mai au Théâtre de Caen, les 22 et 24 mai à l'Opéra de Dijon et les 4 et 5 juin au Grand Théâtre de Luxembourg. C'est la fin de ces faits et événements. Restez avec nous pour la suite de notre émission. Notre panorama de la semaine porte sur la question de la situation des personnes atteintes de handicap en République tchèque. L'exclusion sociale des personnes handicapées mentales est un problème qui ne se limite pas à la République tchèque. Il n'empêche qu'ici, il a quelques spécificités liées par exemple à la difficile intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires ou à la mauvaise communication entre l'État et les ONG actives dans ce domaine. L'une d'entre elles, l'association de soutien aux gens atteints de maladie mentale, la SPMP, est dirigée par Camille Latimier, une spécialiste française des droits de l'homme installée depuis 2005 à Prague. Magdalena Hrozinkova l'a rencontrée.
Panorama.
Panorama.
L'association est une association nationale. Nous avons environ 8500 membres répartis sur tout le pays. C'est une association qui est ancienne, qui en fait a été fondée encore sous le communisme, mais elle n'était pas officiellement reconnue. Donc elle a fonctionné, elle était d'une certaine manière tolérée. Donc son existence légale date de 1990, ou janvier 91. Et le but principal de l'association, c'est de promouvoir et de permettre l'inclusion des personnes handicapées mentales et de leurs familles dans la société. Donc nous avons des activités à la fois de lobbying, en particulier envers le gouvernement et les autorités locales, et puis aussi des activités au sein de l'association pour soutenir les familles et pour soutenir les personnes handicapées dans leur quotidien.
Est-ce que vous bénéficiez du soutien de l'État ou vous vous heurtez plutôt à des obstacles au niveau de la législation? Comment ça se passe?
Alors, tout n'est pas noir. Nous avons un soutien de l'État puisque nous sommes en partie financés par des subventions étatiques qui sont de loin pas suffisantes, mais ça c'est évident à l'heure actuelle à dire. Ce qui est plus difficile, c'est il y a un problème de transparence lorsqu'il y a des réformes législatives qui sont faites. C'est-à-dire que nous ne sommes pas inclus du début à la fin d'un processus législatif, c'est-à-dire quand il y a une réforme, pourquoi est-ce qu'on fait la réforme, quels sont les besoins des personnes handicapées, pourquoi il faudrait proposer ci et ça, et avoir le droit d'intervenir à différents moments d'une réforme. Ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas encore très bien. Donc on est en général inclus à un moment donné, mais souvent trop tard. Et donc, on n'a pas, nous, le temps de faire un travail de qualité, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de prendre en compte vraiment la situation des personnes. Et souvent, on est obligé de préparer des amendements ou des informations pour le gouvernement dans un temps très, très court et pas assez avec, disons, la contribution des personnes que cela concerne. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis parfois, on ne sait pas. Il y a une organisation qui est invitée, une autre qui n'est pas invitée. On ne sait pas très bien pourquoi.
Quelle est plus généralement la situation des personnes handicapées mentales en République tchèque comparée aux autres pays Alors, je ne sais pas si on peut généraliser comme ça et comparer par exemple à la France ou s'il est plus approprié de la comparer aux autres pays post-communistes.
Alors, il y a des choses qui peuvent tout à fait se comparer sur toute l'Europe. On n'est pas obligé de diviser l'Est, exactement. Notamment en ce qui concerne les services de proximité, les services dans la communauté. On rencontre l'exclusion partout, que ce soit en France ou en République tchèque, parce qu'il y a une tradition avec les personnes handicapées mentales d'exclusion. Et souvent, plus la personne est handicapée, plus l'exclusion est importante, parce que la communication et la participation à la vie quotidienne est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de défis. Et à l'heure actuelle, particulièrement avec le gouvernement, c'est pas évident. Pour pointer peut-être les éléments les plus essentiels à l'heure actuelle, c'est en termes d'éducation, je crois en particulier pour les jeunes personnes handicapées mentales sont très souvent exclues du système ordinaire. Et c'est un gros problème parce que ce que peut-être les politiques ont du mal à comprendre, c'est que quand une personne commence sa vie dans un système qui est séparé, qui est ségrégué, et bien après, ça va la poursuivre toute sa vie. Et la chance qu'elle puisse ensuite trouver un travail, être inclue et avoir une vie la plus ordinaire possible, et bien cette chance ne lui est pas donnée quand elle est mise dans une école spéciale.
Est-ce que ça existe en République tchèque, en fait, des écoles qui acceptent des enfants handicapés mentaux ?
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'exemples de bonnes pratiques, si je peux le dire comme ça. Il y en a beaucoup à Prague, mais on en trouve aussi dans des plus petites villes ou dans des plus petites communautés où parfois, ça s'est fait de manière très naturelle parce qu'il y avait un enfant handicapé, puis l'école a appris à travailler avec lui et ça s'est fait très bien finalement parce que les gens avaient de la bonne volonté. Maintenant, ce qui manque, c'est l'approche systématique pour l'intégration et l'inclusion des enfants handicapés mentaux à l'école, en tout cas maternelle et élémentaire. Et là, par contre, il y a à la fois des barrières législatives, des barrières financières et surtout, des barrières dans les mentalités, en fait. Parce que là où on veut que ça marche, on voit que ça marche, même quand les moyens ne suivent pas.
Il y a un grand débat en ce moment en République tchèque autour des écoles, justement des écoles spéciales, mais c'est souvent lié, ou le plus souvent lié aux enfants roms. Ce qui est très critiqué aussi par les autorités européennes, c'est cette présence des enfants roms, cette exclusion des enfants roms qui sont placés dans des écoles dites spéciales. Donc ça concerne aussi les enfants handicapés mentaux. Vous êtes pour, parce qu'il y a une partie de pédagogues qui sont pour qu'on conserve ces écoles. Ils disent que au contraire, on peut assurer un meilleur enseignement dans ces écoles. Quel est votre avis alors ?
Ah, c'est une question très compliquée et très débattue. Mon avis est, parce que j'ai vu que ça pouvait marcher, même avec des enfants sévèrement handicapés, j'ai vu que ça pouvait marcher, que ce n'était pas un mythe. Donc je crois à l'inclusion totale, c'est-à-dire à la possibilité que tous les enfants, quel que soit le niveau de handicap, puissent être intégrés dans le système ordinaire. Mais ça demande une approche complètement différente de l'éducation. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je crois que c'est très intéressant que la question des Roms touche les écoles spéciales, parce qu'on voit vraiment que tout ce qui est différent, finalement, a du mal à s'intégrer dans le système ordinaire. Et j'ai souvent parlé avec des collègues qui représentent des associations des populations roms, et on fait face à des questions en fait très très similaires. Donc nous avons depuis quelques années en fait commencé à travailler ensemble, parce qu'on ne voulait pas que les associations de roms non plus disent que les écoles spéciales c'était pour les enfants handicapés mentaux, parce qu'on n'en voulait pas. Donc on a commencé à travailler ensemble pour justement expliquer que, quelles que soient les différences, il faudrait que les enfants obtiennent les soutiens dont ils ont besoin, à commencer qu'une école, il faudrait qu'il y ait des rampes pour que les enfants puissent, en chaise roulante, puissent accéder à leur classe, et ainsi de suite. Et je crois que il faut aussi, un des gros problèmes, il faut pouvoir trouver une place adéquate pour les éducateurs spécialisés. Parce qu'un des grands mythes et une des grandes peurs, c'est que tous ces éducateurs spécialisés vont tout d'un coup être au chômage. Et c'est un mythe, parce qu'on a besoin des éducateurs spécialisés. Mais il faut qu'ils viennent dans les écoles ordinaires, aider et soutenir leurs collègues qui ont une formation générale, justement. Et malheureusement, ça ne l'aurait jamais expliqué. Et je comprends aussi qu'il y ait des peurs derrière cela.
Et finalement, quels sont en fait les plus grands tabous, les plus grands préjugés auxquels vous êtes confrontés dans votre travail en République tchèque, mais je suppose que ça doit être pareil dans les autres pays. Je veux dire les tabous justement liés aux personnes handicapées mentales qui peuvent être liés à leur vie sociale, à leur vie sentimentale.
Je pense que souvent, les gens ne s'imaginent pas qu'une personne handicapée mentale peut vivre une vie... j'ai envie de dire presque banale et ordinaire. Et très souvent, on ne leur donne pas la chance. Justement, vous avez mentionné la vie sentimentale, de vivre une histoire avec quelqu'un, de vivre de manière autonome, de travailler. Donc voilà, il y a un gros problème dans la société et qui est notamment lié aux aides que les personnes handicapées reçoivent et qui fait perdurer en fait ces mythes et ces idées préconçues, qui est par exemple qu'une personne handicapée qui fait des progrès, qui apprend à vivre de manière autonome, souvent elle obtient moins d'argent au bout de quelques années et elle est toujours handicapée, elle a toujours besoin d'aide, elle a toujours besoin d'avoir soit un assistant personnel, soit différents outils pour compenser son handicap. Or, ce qui se passe, c'est que l'approche à l'heure actuelle, c'est si la personne handicapée trouve un travail, elle va perdre son allocation. Si elle fait des progrès, qu'elle apprend à vivre autonome, les travailleurs sociaux vont considérer qu'elles n'ont plus besoin d'aide. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux où les personnes qui veulent montrer qu'elles sont capables de vivre une vie ordinaire, j'ai envie de dire, et elles sont en fait pénalisées. Je sais que c'est certainement pas un problème tchèque, en tout cas en ce qui concerne l'emploi, mais un problème européen qui concerne d'ailleurs aussi les pays de l'Europe de l'Ouest, où certaines des allocations sont retirées aux personnes handicapées lorsqu'elles travaillent, parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas capables de travailler. Or, souvent, ce sont des travaux à temps partiel. Et en fait, elles ont besoin de cette allocation pour vivre. Mais elles sont pénalisées. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de l'Angleterre à la Lituanie, si je le dis comme ça. Et nous travaillons aussi au niveau européen, en fait, pour faire prendre conscience de ce problème.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce programme et l'ensemble de nos rubriques sont disponibles en podcast sur notre site internet à l'adresse www.radio.cz. Cette émission vous a été présentée par Marion Dautry. À très bientôt sur Radio Prague.